Et toi et moi, mon oncle bien-aimé, nous verrons une vie lumineuse, splendide, gracieuse. Et nous nous réjouirons. Et en nous retournant sur nos malheurs de maintenant, nous aurons un sourire de compassion. Et nous l'aurons plus. Je crois, mon oncle, avec ardeur, passionnément.
Mon aile.
Nous nous reposerons.
Il a le bec cassé.
Nous entendrons les anges. Nous verrons tout le ciel constellé de diamants. Nous verrons le mal terrestre, toutes nos souffrances, se noyer dans la charité qui emplira le monde entier. Et notre vie deviendra douce, tendre, légère, comme une caresse. Je crois.
Surpris par la nuit.
Je crois.
La tête et le bec.
Joël Gaillot, Anne Fleury.
Mon merle.
Tu pleures, tu n'as pas eu de joie dans ta vie, mais attends un petit peu, oncle Nadia, attends. Nous reposerons.
Mon merle, il a le dos cassé.
Mon merle. Il a le dos cassé, le dos et le cou, et le cou, et la tête, et la tête, et le bec. Mon merle, il a le dos cassé.
Julie Brochane, en vous attendant ici, chez vous, au Théâtre de l'Aquarium, pour que vous veniez nous parler de cet oncle Vania de Tchekhov que vous reprenez en association avec la pièce de Tolstoï, Le cadavre vivant. Je lisais au preneur de son un extrait des didascalies du début de la pièce où il est dit « Il est près de 3 heures, le temps est gris. Hein »
Et il pleut beaucoup sur la cartoucherie.
Et il pleut sur la cartoucherie et plus particulièrement ce lieu dont vous assumez la direction depuis maintenant
2 ans.
2 ans.
Et je termine l'année prochaine.
Vous allez re-signer.
Ah, moi je re-signe, bien sûr. Pour ce lieu-là, je pense qu'il faut du temps. Oui. Mmh.
Comme il vous a fallu du temps, Julie Brochane, pour arriver à mener à bien ce projet donc, qui vous tenait à cœur depuis plusieurs années, qui est donc la double création d'Oncle Vania de Tchekhov et du cadavre vivant de Tolstoï.
En fait, c'est l'aquarium qui a été le principal acteur de la volonté que j'ai eue de monter Vania, puisque le cadavre vivant était beaucoup plus antérieur. C'était depuis 94 que j'y travaillais. Je suis partie à Moscou en 95 pour parler avec Aliagine de ce projet, etc., qui était déjà ancré en moi. Ça a mis beaucoup, beaucoup d'années à remonter à la surface. Et au moment où le cadavre vivant se cassait la figure pour la deuxième fois, on l'avait envisagé au Bouffes du Nord à un moment, et puis de nouveau la production s'était cassée la figure, j'ai appris ma nomination à l'Aquarium. J'ai décidé tout de suite de l'inscrire à l'Aquarium comme un aboutissement nécessaire pour moi, parce que ça devenait crucial de faire ce cadavre vivant de Tolstoï. Et en travaillant avec Markovitch, j'ai su... André Markovitch m'a dit que c'était en réponse à Vania que Tolstoï avait écrit le cadavre vivant. Donc je me suis dit, imaginons un diptyque tout de suite, mais pour l'aquarium. C'est-à-dire qu'en inscrivant le cadavre, j'ai presque voulu inscrire Vania pour comme trait d'union entre ce que les compagnons de jeu et moi-même avions fait depuis 10 ans.
Les compagnons de jeu étant donc la compagnie que vous avez fondée.
Voilà, et pour laquelle j'ai d'ailleurs pris cette décision de venir habiter ici à l'aquarium. On vient de fêter nos 10 ans, donc c'était une sorte de 10 premières années qui se clôturaient par l'aboutissement enfin du cadavre vivant. Et un début, quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre de 10 ans, ou moins ou plus, je sais pas, avec Vania. Donc c'était une sorte de trait d'union entre ce que nous avions fait jusqu'à présent et ce que nous allions faire. Alors c'est vrai que ça met à rude épreuve ce lieu qui est si fragile. 7 jours sur 7, là pendant 3 semaines, entre les 2 spectacles, l'un qu'on reprend, l'autre qu'on crée, et le tournage de Vania qui est coproduit par Arte et Ina, on y passe nos nuits et nos journées.
Film qui sera diffusé donc en juin 2013.
En juin, voilà.
Exactement. Sur Arte.
Oui.
C'est donc pour ça qu'on a voulu vous voir ici chez vous. Vous dites que vous habitez ce lieu, Julie Brochane.
Oui, en ce moment.
Vous n'y
oui.
travaillez pas, vous y habitez.
Oui, en ce moment plus que jamais, oui, oui. On a des lits d'ailleurs qui commencent à se multiplier. Je ne suis pas la seule, on est plusieurs à y vivre beaucoup là en ce moment.
Il a les ailes cassées. Les ailes et le dos et le cou et la tête et le bec. Mon merle, il a les ailes cassées.
Constantin Stanislavski, Sacha Pitoef, la compagnie Renaud Barreau, Hier, Jacques Lassalle, ce soir, Julie Brochen. Il n'y a pas d'époque et il n'y a pas d'âge pour approcher le théâtre de Tchekhov. Chacun prend son temps et s'y rend à son heure. Tous lui tournent autour, le lisent, le jouent même, le mettent en scène, enfin. Julie Brochen est de cela. Un peu plus de 30 ans, quelques beaux spectacles derrière elle, un théâtre, l'aquarium qu'elle dirige depuis 2000, et Tchekhov, avec lequel désormais elle entre dans la cour des grands. Julie Brochen a mis en scène Oncle Vania, une pièce charnière qui demande à ce qu'on aille en percer les mystères. Moins éclatante que La Mouette, plus aboutie que Platonov. C'est la pièce de l'homme mûr, du Tchekhov, dont le travail a confirmé le talent. Celui dont le génie n'est plus le fruit du hasard, mais un don réaffirmé et renouvelé, spectacle après spectacle. Oncle Vania, soit l'histoire d'un professeur et de sa jeune épouse qui reviennent au domaine familial, que l'oncle Vania, justement, entretient depuis toujours à la sueur de son front. C'est le choc de deux vies, de deux mondes, de deux mémoires. Oncle Vania est une déflagration sans éclat apparent, un tressaillement continu, le tremblement d'une époque qui se fracture doucement, mais sûrement, qui tourne le dos à son passé, le renie sans doute, pour on ne sait trop quel avenir. Et c'est là, à l'endroit de la faille et de l'indécision, que nous nous trouvons avec Anton Tchekhov. Rendez-vous chez Oncle Vania, avec Julie Brochen, Bernard Gabé, Nathalie Nerval, avec la voix de Denise Jans et une lectrice, Valérie Dravine. Donc là, nous sommes dans la deuxième salle du théâtre et pour cause, puisque la salle où se joue le spectacle est investie par les décors et par le dispositif scénique de Francis Biras.
Oui.
Vous avez fait allusion à Kaliagin, avec qui vous avez travaillé.
Mm-hmm.
Vous n'avez pas parlé de Fomenko, on va aussi en parler, puisque une filiation que je crois vous revendiquer.
Oui, absolument.
Tout ça pour arriver à Tchekhov. Est-ce que vous êtes sous influence des Russes, Julie Brochen?
J'espère.
Oui,
j'espère.
Du fond du cœur,
l'être encore plus, de plus en plus. Non, en fait, Fomenko, je l'ai rencontré au conservatoire et on a travaillé sur Pushkin. Et c'est quelqu'un que j'estime incroyablement, que j'admire et qui me nourrit à tous les niveaux et avec qui je rêve de retravailler comme comédienne, puisqu'il avait... Je lui suis très reconnaissante de m'avoir distribuée dans le rôle de la comtesse dans La Dame de Pique, qui était une merveille de rôle au conservatoire. Mais Kaliagin, je l'ai rencontré avant d'être au conservatoire et c'était sur un travail que j'ai d'ailleurs partagé avec Valérie Dréville, à Nanterre, au Théâtre des Amandiers, sur 4 pièces de Tchekhov. On avait travaillé sur l'Oncle Vania, on avait travaillé sur Les Trois Sœurs, sur La Cerisée et sur La Mouette. Et puis ça a abouti 4 ans après, dans le rythme russe. Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir le temps russe, c'est-à-dire où une chose extrêmement fulgurante, compacte, resserrée, très, très, très intense comme ça, ou alors une grande absence de leur part. Ils repartent à Moscou, ils reviennent un an après, on recommence, on s'arrête après un mois de travail, etc. Au bout de 4 ans, on avait fait les Tchekhov Acte 3 à Nanterre, qui étaient les 3 troisièmes actes de Vania, des Trois Sœurs et de La Cerisée. Et moi, j'ai eu le conservatoire dans cette période très fiévreuse pour moi de découverte du plateau avec lui, puisque c'est Kaliagin qui m'a vraiment fait rencontrer l'espace du plateau comme comédienne et qui m'a demandé de repasser le conservatoire en me disant qu'il fallait absolument que j'y aille, qui, une fois que je l'ai eu, m'a accompagnée dans ces 3 ans du conservatoire, puisque je l'ai retrouvé 3 ans après pour faire le spectacle à Nanterre, qui a su qu'en 3e année, Piotr venait faire la Dame de Pique, Piotr Fomenko. Oui. Fomenko venait faire la Dame de Pique dans la classe de Side dont je faisais partie à l'époque. Et donc, tout ça s'est emmêlé. Ce qui est très beau là-dedans, c'est que c'est Kaliagin qui m'a donné le texte du cadavre en 94 et que c'est avec lui que j'ai découvert Tchekhov, que je suis rentrée au conservatoire, que tout se tisse et qu'on ne sait plus après dans quel ordre tout ça s'est produit. Mais l'influence est réelle, elle est palpable, elle est très importante, c'est évident. Et en même temps, quand je m'attaque à Tolstoï encore plus qu'à Tchekhov, je me sens pas russe du tout. Et très contente de pas être russe au fond de moi. Parce que quand je vais à Moscou, j'ai une admiration, une fascination. Mais je suis très contente de ne pas être russe, d'être française, d'avoir cette langue française, d'habiter Paris et pas Moscou. Et pourtant, j'ai été à Moscou.
Voilà, cela étant, vous êtes quand même allée à Moscou.
Oui, je suis allée à Moscou comme Irina rêve d'aller à Moscou.
Je suis allée à Moscou en disant à Moscou, à Moscou, à Moscou. Et puis j'ai eu envie dans les 48 premières heures de repartir, de prendre le premier avion pour rentrer.
Pourquoi, Julie Brochet?
Parce que c'est un choc, hein, la Russie. Encore plus aujourd'hui qu'avant, je pense. Moi, j'y étais en 95 et déjà, Tverskaya était envahie par des enseignes lumineuses, McDonald's, etc. Depuis la chute du mur de Berlin, c'est extrêmement violent. Il y a quelque chose d'une sorte de ville western avec une violence palpable dès l'arrivée à l'aéroport. Moi, j'étais toute seule, j'avais appris le cyrillique, je prenais le métro toute seule, je me débrouillais comme je pouvais. Il y avait les gypsy taxis, qu'on négocie les taxis, tout le monde peut être taxi à Moscou. Et c'est une ambiance, une atmosphère dont on n'a pas l'habitude. Après, quand je suis allée jouer en Colombie à Bogota, je me suis dit, ah, il y a plus violent que Moscou. Mais on n'a pas l'habitude, on est quand même des privilégiés de vivre dans ce beau pays qu'est la France, cette belle ville qu'est Paris.
Tiens, raconte-nous quelque chose, Ivan Petrovitch. Racontez quoi? Il n'y a rien de neuf?
Rien. Tout est vieux. Je suis toujours le même. Pire, peut-être, à force de paresse. Je ne fais rien, à part grogner comme un vieux birbe. Ma vieille corneille de mer, elle sort pas de ses radotages sur l'émancipation des femmes. Un œil sur la tombe, l'autre à chercher dans ses livres savants l'aube d'une vie nouvelle.
Et le professeur?
Il se crée une étonnante intimité entre soi et les personnages de Tchekhov. Comme si les empreintes qu'ils ont laissées et dans lesquelles nous marchons nous faisaient parcourir un sentier intérieur étrangement connu de nous-mêmes. Travailler avec Julie Brochen me donne cette sensation d'entrer dans l'écriture de Tchekhov, comme si nous poussions les grilles d'un domaine familier. Dès le début des répétitions, il se crée une unité de recherche au travers de nos sens, plus que de l'intellect. L'aube se lève doucement et révèle des portraits qui semblent nous reconnaître.
Et le professeur?
Le professeur?
François Loriquet.
Comme d'habitude, il reste dans son bureau de l'aube à la nuit noire et il écrit. Esprit tendu, le front penché, nous composons sans fin nos odes, en méprisant l'espoir commode d'être jamais récompensé, pauvre papier. Il ferait mieux d'écrire son autobiographie. Quel sujet superbe, un professeur à la retraite. Tu comprends? Un vieux cronton. Ah, on sort académique. Voilà, rhumatisant, migraine, le foie enflé à force d'être un vieux jaloux.
Ce travail avec Alexandre Kaliagin, Julie Brochen, si je vous entends bien, il a suscité chez vous un désir de comédienne, mais aussi un désir de mise en scène, hein, au fond.
Par rapport à Vania?
Par rapport à Tchekhov, oui. Ça a pris naissance ici ou pas?
Non, c'est plus une fascination que j'ai pour l'écriture de Tchekhov elle-même et pour le jeu, pour l'espace de travail dedans. Mais non, c'était plutôt très intimidant. Je ne me serais pas dit, par exemple, s'il n'y avait pas eu le cadavre vivant, je n'aurais pas monté Vania déjà. Et puis, je ne me serais pas dit, tiens, et si je montais un Tchekhov cette année? Ça, c'est, je crois, pas possible.
Mais vous dites, je n'aurais pas monté Vania, ça veut dire que vous auriez pu monter une autre pièce de Tchekhov?
Non.
Vous n'auriez carrément pas entrepris Tchekhov?
Non, j'aurais pas entrepris Tchekhov. J'aurais attendu qu'on me le propose pour le jouer. C'est très intimidant, parce qu'on a la sensation, en plus, grâce au cadavre, j'ai redécouvert Vania à un autre endroit, puisque je l'avais joué, moi, dans le rôle de Sonia. J'ai la conviction que c'est un chef-d'œuvre. Et quand on s'attaque à un chef-d'œuvre, il faut ou y être forcé, ou savoir que quelqu'un nous pousse à le faire, ou comme Tolstoï qui ne va pas laisser le choix, ou je sais pas. Il y avait mille raisons pour ne pas m'y attaquer, mais là j'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse. C'était une chose qui devenait nécessaire, comme l'arrivée ici. Il fallait me confronter à cet endroit, à ce lieu, monter Vania en écho avec mon arrivée ici, puisque la Le sujet principal de Vania est devenu la maison encore plus pour moi ici. De considérer la maison à vendre comme un théâtre, qu'est-ce que ça serait si le théâtre, en tant que personnage principal et central de la pièce, était la propriété à vendre? Puisqu'on n'est pas loin du 2% de bénéfices ici aussi.
Ça trahir un vieux mari qu'on ne peut plus supporter, c'est immoral. Mais s'efforcer d'étouffer en soi-même sa malheureuse jeunesse, ses sentiments vivants, ça, c'est pas immoral.
Vania, je n'aime pas quand tu dis ça. Non, quoi, c'est vrai. Celui qui trahit sa femme ou son mari, celui-là, c'est un homme sans foi. Il pourra aussi bien trahir sa patrie.
Ferme tes écluses, la gaufre.
Pardon,
rien. Ce Téléguine qui, lui, est la mémoire de la maison. Oui. Parce que c'est ça qui est drôle de jouer si jeune aussi, puisque lui, en fait, la maison appartenait à sa famille, à son oncle. Donc il se retrouve, lui, le seul survivant, parasite, ruiné. Donc c'est aussi quelque chose d'incroyable comme phénomène de représenter ça aussi dans cet univers-là. Un personnage qui n'a absolument plus rien que le lien. Et lui, en fait, la seule existence qu'il puisse avoir, c'est le lien avec les autres qu'il essaie invariablement de renouer, puisqu'il ne parle que de souhait de concorde et de paix avec les uns, avec les autres, de cette harmonie inlassable, quoi.
Alors Bernard Gabé, vous n'êtes pas une mémoire du théâtre, néanmoins vous êtes acteur de théâtre, et votre rapport à Tchekhov, quel est-il ?
Tout nouveau, parce que moi, pendant des années, j'ai admiré Tchekhov, mais je l'ai vu vraiment comme un Himalaya, un peu comme un auteur d'une difficulté incroyable à toucher, à vivre. Et c'est vrai que dans ce que je voyais, de très très rares exceptions près, je me disais, c'est vraiment très difficile et c'est très rare les metteurs en scène qui arrivent à envisager un espace et des acteurs dans une vie à l'intérieur de Tchekhov qui ne tombe pas. Il y en a quand même plus. Et puis il y a eu aussi le travail de Claire Lanne qui a été aussi très marquant. Un Alvaro, c'est inoubliable pour moi.
De Platonov.
Oui, dans sa mise en scène de Platonov.
Vous nous quittez, mais vous revenez, hein, Nathalie Nerval, qui se lève et qui s'en va.
Donc il y a tout ça. Il y a le fait aussi que j'avais eu une expérience sur un stage que j'avais fait sur un parcours comme ça sur Tchekhov et qui m'avait pas donné vraiment confiance en moi, qui était assez récent. Et puis, donc, je m'étais presque convaincu que j'étais pas fait pour ce monde-là. Je me disais, moi, je sais pas quelle place je pourrais y avoir. Tchekhov, ça me semblait très, très, tellement précis par rapport à ce qu'on est dans la vie, en tant que personne, que je me disais, je sais pas comment, quelle place j'y aurais par rapport au personnage que j'avais l'occasion d'y voir, quoi, sur le plateau. Ça paraît un peu bizarre, peut-être, cette sensation là.
Moi, ma femme, le lendemain de mes noces, elle s'est sauvée de chez moi avec l'homme qu'elle aimait, par suite de mon physique peu attractif. Après ça, moi, je n'ai jamais failli à mon devoir. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours aimé et je lui suis resté fidèle. Je l'ai d'autant que j'ai donné tout mon bien pour l'éducation des petits qu'elle a eu avec celui qu'elle aimait. Le bonheur, je l'ai perdu, mais ma fierté, je l'ai gardée. Et elle ?
Vous avez dit, Julie Brochaine, j'étais fascinée par l'écriture de Tchekhov. Quand vous dites l'écriture de Tchekhov, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des écritures de Tchekhov, justement ?
Oh non, il y en a une.
Il y en a une seule ?
Ah oui. Il y en a une, c'est la sienne. Qu'elle soit multiple et complètement difficile à saisir et que le travail de traduction soit absolument fondamental, ça c'est sûr. Mais tout est absolument écrit. C'est-à-dire qu'on avait tendance, des fois, au conservatoire, à considérer Tchekhov comme une écriture à degré zéro. J'avais entendu ça à l'école. Et je pense pas. Franchement, je pense plus du tout ça. C'est-à-dire que si tant est
que qu'est-ce que ça veut dire une écriture à degré zéro?
C'est une écriture à trous. C'est une écriture où on doit aller chercher dans le jeu des choses qui ne sont pas écrites. Alors qu'à mon avis, il faut se méfier de la psychologie et d'aller construire des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas écrites. Tout est dans l'écriture de Tchekhov, absolument fondamentalement écrit. C'est-à-dire que même dans le travail qu'on a à faire sur le lâcher prise après de l'acteur qui a enquêté par rapport aux mots de Tchekhov, tout ce qu'il doit prendre, puiser pour se faire traverser après par le rôle, je pense que les silences, je pense que l'inconscient du personnage est écrit. Denis Jans me disait pendant qu'on répétait une chose absolument vertigineuse, c'est elle avait la sensation que chaque personnage portait une pièce qui n'allait pas être jouée ou représentée et qu'il fallait autant travailler cette pièce-là. Mais elle est écrite par Tchekhov. Mmh. C'est inouï ce qu'il entreprend parce qu'il, contrairement à Tolstoï, il a réussi à écrire une dramaturgie théâtrale. Tout est absolument écrit. Si on suit à la lettre, comme une partition de musique, ce qu'il écrit, on découvre tout. On découvre des paysages, on découvre des...
C'est une partition. Et ça se joue et ça s'interprète comme une partition.
Ah ! Tenez, mon bon parrain, qu'est-ce qu'il vous arrive, grand-mère ?
Alexandre, j'ai oublié de lui dire, je perds la mémoire. Aujourd'hui, j'ai reçu Une lettre de Kharkov de Pavel Alexeïtch, il envoie sa nouvelle brochure.
Ah, et c'est intéressant?
Très intéressant, mais un peu étrange, il dénonce ce qu'il défendait lui-même il y a 7 ans, c'est affreux.
Ça n'a rien d'affreux, buvez votre thé, maman.
Mais j'ai envie de parler.
Oui, depuis 50 ans, nous ne faisons que parler, lire des brochures, il serait grand temps d'arrêter.
Tu ne sais pas pourquoi? Tu n'aimes pas m'écouter quand je parle. Pardonne-moi, Jean, mais cette dernière année, tu as tellement changé que je ne te reconnais plus du tout. Tu étais un homme aux convictions solides, un homme phare.
Ah oui, j'étais un homme phare, mais qui ne donnait de lumière à personne.
J'ai pratiqué d'abord, je crois, chez Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud dans la Cerisaie.
Absolument, je confirme.
Où je jouais Dounia-Cha.
Oui.
Après, j'ai travaillé chez Sacha Pitoyev, où j'ai joué dans Les Trois Sœurs, Olga.
Nathalie Nerval.
Après, j'ai joué dans Platonov avec Michel Vitold au Vieux Colombier, en 68. Et puis, miracle, je me retrouve ici.
C'est un miracle?
Ah, pour moi, c'est un miracle. C'est une renaissance.
Quoi, depuis 68, ça fait donc...
Oui, mais enfin, j'étais après aux Français pendant 22 ans.
Sociétaire de la Comédie
où je n'ai
française.
Pas joué dans les pièces russes. Je pense que j'étais trop russe pour... J'aurais eu l'air comme une de mes camarades, très gentiment, me dire « Ah non, si elle joue dedans, on aura l'impression d'avoir un samovar en scène. »
Voilà. Et Tchekhov, alors?
C'est peut-être au départ, à travers Sacha Pitoyev, qui avait une manière de faire travailler qui n'en était pas une. Je ne peux pas expliquer comment il faisait travailler. Les choses vous venaient comme un vêtement qui est un peu neuf au départ. Et puis petit à petit, les coutures se font à vous et il commence à s'user, à être bien. Et alors là, quand il est vraiment légèrement usé, vous
on
êtes
découvre
dedans.
Des paysages, on découvre des failles aussi, des gouffres, des grottes. C'est très géographique, sismique. Ça a à voir avec le baromètre aussi du temps. L'orage qui menace, qui est en train de nous tomber dessus. Tout est extrêmement magnifiquement écrit. Et je sens l'homme qui connaissait la dissection des êtres humains.
Le médecin.
Oui, le médecin qui s'occupe de l'inconscient à un endroit très concret et qui peut partir dans l'abstraction musicale, artistique, poétique, mais qui est fondamentalement humain dans sa démarche et dans sa quête, dans sa recherche, dans ses questions, et qui met en fait, qui place les acteurs, les interprètes dans une certaine position. Toute son écriture est un champ de tensions, des tensions qui se croisent, un champ de réactions, de paroles qui dessinent ou qui déterminent une position sur un jeu d'échecs.
Dans un espace qui est statique.
Il n'est pas statique, il est arrêté, mais il n'est pas statique. Le temps est arrêté des fois... Le temps est lourd, on s'ennuie, mais Kaliagin me disait qu'au théâtre, il fallait éviter... En tout cas, non, pas au théâtre. Au théâtre, il vaut mieux, mais sur le plateau pour un interprète, puisqu'il s'adressait vraiment à nous comme un acteur qui parle à des acteurs, il fallait éviter deux choses, c'était la tristesse et l'ennui. Je crois qu'il n'a pas tort. C'est deux choses qui sont injouables, absolument injouables. De jouer l'ennui et la tristesse, on se casse le nez.
Здесь красиво и тепло, только снегу намело, только крышу унесло, что совсем уж не смешно. Есть рога, есть нога, есть вода, есть бурга, крыша напрочь навсегда. Там не видно нам низки. Проживем.
Brochen, en fait, vous ne faites pas vraiment de différence entre ce qu'on pourrait appeler le Tchekhov des premières années ou des premières pièces, les pièces de jeunesse, Platonov, Ivanov, L'Homme des Bois, et le Tchekhov de la maturité qui démarrait avec Oncle Vania, réécriture de L'Homme des Bois qui a plusieurs titres d'ailleurs.
C'est pas une réécriture,
le Sauvage.
Hein, c'est une écriture tout à fait nouvelle. Ça, ce n'est pas, comme on a dit, L'Homme des Bois n'est pas en rien un brouillon de Vania. Hein.
Il n'est pas une maîtrise de Vania.
Non, je crois
pas. Il ne serait pas une maîtrise de Vania. Pourtant, on retrouve à peu près les mêmes personnages.
Je crois que c'est deux tentatives qui évidemment sont reliées puisque c'est le même auteur. Mais je pense pas que ça soit un premier essai d'une pièce qui serait la même au bout du compte. Je pense que c'est deux pièces tout à fait singulières et qui n'ont de lien que le fait d'avoir été écrit par la même personne.
Donc vous ne faites pas de différence entre cette première période Tchekhov et la seconde qui court donc de La Cerisée à La Mouette avant et aux Trois Sœurs.
Non, je fais pas de différence dans mon apprentissage de Tchekhov, dans mon appréhension de lui dans son écriture, mais je vois évidemment, je peux voir les échos qui se créent entre certaines pièces et d'autres, et puis je pense que c'est pas une question de maturité, parce que la maturité, il l'a très tôt. Ivanov et Platonov, c'est quand même des pièces qui sont pas comme Tête d'or de Claudel, dans un jaillissement très 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 jeune et fou. Dans Tchekhov, en fait, ce qui me trouble, c'est plutôt la durée, le mouvement intérieur. On dit souvent que la construction est la même. En fait, il a creusé une chose, mais comme Glenn Gould quand il étudie Bach, c'est-à-dire on sent qu'il a trouvé une matière d'écriture théâtrale, qu'il invente complètement une nouvelle écriture théâtrale sur laquelle on travaille comme les étudiants de philosophie étudient Kant aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un espace de recherche, c'est ce pourquoi les Russes considèrent Tchekhov comme une école de pensée et de jeu. Il a une sorte de domaine qui s'articule dans la construction des pièces. Première pièce, la présentation des personnages, les bonjours. Premier acte, pardon, les bonjours. Deuxième acte, l'émergence des conflits. Troisième acte, la crise et l'exaspération de ces conflits. Et le quatrième acte, les au revoir. Souvent, c'est construit comme ça. Mais il n'y en a pas une qui se ressemble. C'est-à-dire qu'elles ont toutes des points communs, des clivages, des similitudes, des choses à se raconter les unes les autres. On n'arrête pas d'ailleurs de faire des ponts quand on le travaille. On se rappelle de certaines personnes, de certaines paroles, notamment parce qu'il était si lié aussi à l'équipe des acteurs de Stanislavski, qu'il entretenait avec Olga Knipper une telle relation que des lettres entières d'Olga Knipper sont dans des personnages, qu'il y a une matière de vie là-dedans qui est inouïe. Donc c'est plutôt sur la singularité de chacune des pièces que je suis sensible aujourd'hui, sans essayer de dégager une chronologie dans sa maturité. Je pense que c'est un auteur qui est absolument magistral, en tout cas au théâtre, que c'est un auteur dont on a envie de monter absolument tout. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter, qui induit chez nous une voracité, une attente, une impatience, pas seulement une chose jubilatoire et euphorique quand on le travaille, d'ailleurs, parce que c'est difficile à travailler, c'est très difficile à jouer, c'est éprouvant, c'est fatigant.
Plus que d'autres auteurs.
Plus que d'autres auteurs, sans doute, parce que c'est sans fin. C'est sans fin.
L'opinion prévaut encore aujourd'hui que Tchekhov est le poète du quotidien, le poète des gens grisâtres, que ses pièces dépeignent une page affligeante de la vie russe, qu'elles sont un témoignage de l'engourdissement spirituel où végétait à l'époque notre pays. L'insatisfaction paralysant n'importe quelle entreprise, la désespérance abattant toute énergie, les espaces immenses où le slave peut donner libre cours à ce spleen qu'il a de naissance, tels seraient les thèmes de ses œuvres, s'il en est ainsi. Pourquoi donc une telle définition de Tchekhov contredit-elle aussi catégoriquement le souvenir que le défunt m'a laissé, l'image que j'ai gardée de lui? Je le revois bien plus courageux et souriant que renfrogné, et cela en dépit du fait que je l'ai connu pendant les périodes les plus pénibles de sa maladie. Là où se trouvait Tchekhov, pourtant malade, régnait le plus souvent le mot d'esprit, la plaisanterie, le rire et même les farces. Constantin Stanislavski.
Moi, je trouve ça complètement incroyable à travailler, en tout cas. Incroyable parce que ça nous échappe aussi et que c'est vrai qu'on dit aussi de Tchekhov qu'il a une sorte d'art du lapsus, par exemple, ce qu'on n'arrive pas à faire, ou alors il faut être très très fatigué d'arriver à moins contrôler sur le plateau des choses et à se laisser traverser, à laisser échapper des choses qu'on ne maîtrise pas, à devenir nous-mêmes instruments de musique et pas interprète de l'instrument qu'on joue. C'est vrai que Tchekhov demande cet art du lapsus, cet art où l'inconscient revient, mais il n'y a rien qui s'articule plus au conscient que l'inconscient lui-même, c'est-à-dire que si tout d'un coup on n'a pas une structure mentale et sensuelle, enfin des sensations extrêmement construites, c'est-à-dire c'est un parcours de sensations. Je me souviens qu'Aliaguine, quand il a été pour la première fois content de mon travail, c'était un filage où il m'avait demandé de respecter à la lettre tout un parcours d'obstacles que je devais faire dans le rôle. Et que je suis sortie du plateau très désespérée parce que j'avais l'impression de n'être arrivée à rien et de n'avoir rien pu jouer ou en tout cas exprimer, et que je n'avais rien ressenti. Et il était fou de joie et j'étais sûre que j'allais être grondée par lui ou en tout cas avoir des notes épouvantables. Et il est venu dans la loge en me disant voilà, ça y est, tu l'as fait, maintenant tu vas pouvoir te libérer. Donc c'est une construction extraordinaire. Il faut avoir la sensation intérieure que quand on se fait plaisir avec Tchekhov, c'est pas forcément un bon signe. Il disait aussi une autre chose qui est très belle.
Vous n'aviez ressenti ni plaisir, ni tristesse, ni ennui.
J'étais creuse, j'étais vide. J'étais vide et très insatisfaite.
La cerisée, Tchekhov, acte 3, mise en scène Alexandre Kaliaguine avec Valérie Dréville, théâtre Nanterre-Amandier.
Trouvez-moi, Pétia ! Dites quelque chose ! Parlez !
Qu'aujourd'hui la propriété soit vendue ou pas, quelle importance ! C'en est fini d'elle depuis longtemps déjà. On ne reviendra plus en arrière. Le sentier s'est effacé. Calmez-vous, ma chère. Il ne faut pas se leurrer. Il faut, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, regarder la vérité en face.
Quelle vérité ? Vous distinguez le vrai du faux, vous ? Et moi, à croire que j'ai perdu la vue, je ne vois rien. Vous résolvez courageusement toutes sortes de questions importantes. Mais dites-moi, mon brave, n'est-ce pas parce que vous êtes jeune et que vous n'avez pas eu encore à souffrir de ces questions ? Vous regardez courageusement devant vous, mais n'est-ce pas parce que vous ne voyez rien ? Parce que vous n'attendez rien de redoutable ? Parce que la vie est encore cachée à vos jeunes yeux ? Vous êtes plus courageux, plus honnête, plus profond que nous tous. Mais réfléchissez un peu et montrez ne serait-ce que ça de générosité. Épargnez-moi. Je suis née ici. Ici ont vécu mon père et ma mère. Mon grand-père. J'aime cette maison. Sans la cerisée, je ne comprends pas ma vie. Et s'il faut la vendre, eh bien qu'on me vende avec.
Il disait aussi, donc,
une chose très belle par rapport à la France, parce que c'était la première fois qu'il venait à Paris, et puis il nous a dit un jour une chose qui m'a interloquée sur les soldes. Il nous a dit, vous avez quelque chose d'obscène à Paris. Alors tout le monde a ouvert des grands yeux. Il dit, c'est les soldes. Et alors tout ce que vous préférez dans le texte, tout ce que vous avez envie de dire, bradez-le, soldez-le.
On le joue différemment soir après soir, Tchekhov, Nathalie Nerval.
Non, je crois pas.
Ou est-ce qu'on entre dans un...
Non, on a eu une direction assez ferme pour ça, pour ne pas avoir de complaisance vis-à-vis de soi. Parce que c'est vrai que dans Tchekhov, on peut tomber dans la complaisance, dans une espèce de mélancolie sur soi-même, sur ce, non ? Et Julie a été très, très rigoureuse à ce sujet. On a un cadre, n'est-ce pas, assez solide, je pense, qui donne une liberté après, mais elle a raison, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller.
Et ce cadre, il est défini par quoi ? Par l'espace ? Par le rythme ?
Non, par une façon de le jouer aussi. Mmh. une façon de dire le texte, de ne pas s'apesantir.
Oui, voilà. Il faut agir. Comme oui, dit Serebryakov,
il faut agir
à la fin, c'est ça. En même temps, là, je crois que ce que nous disait toujours Julie, et aussi je crois ce qui lui avait été transmis par ces grands acteurs russes avec lesquels elle avait travaillé, Alexandre Kaliagin,
oui, et cette grande actrice,
et puis Piotr Fomenko, etc., qu'il y a cette avancée de la pensée constante. Et jamais un sommeil. Et effectivement, il y a cette sensation qu'elle dit, que doit avoir le public, et je trouve ça très beau aussi, cette idée d'être toujours presque en retard sur ce qui se passe, plutôt que confortable, bien en avance, en ayant déjà deviné, parce qu'on n'a plus de surprise. Comme ça, la vie, des fois, on perçoit absolument pas tout quand il y a une multitude de gens et qu'on est en train d'être un peu perdu parce qu'il y a plusieurs conversations à la fois et que tout ce qui, ça fourmille tellement que... Alors là, le fourmillement, on peut dire, de la pensée, de la vie, des petits événements, est tel qu'on peut s'en permettre plein. Donc évidemment, il y a certains personnages, alors là, d'un soir à l'autre, moi c'est vrai que Téléguine, on a fait une avancée de tas de choses, parce que par exemple, là, pour le coup, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à côté de la gravité ou du désespoir de certains personnages, il y a la cohabitation constante avec un contrepoint drôle ou léger.
Ridicule, un peu dérisoire.
Voilà, dérisoire, drôle. Il y a, dans une de ses lettres, Tchekhov disait que Vania, pendant que Vania pleure, Astrov sifflote. Et pour moi, c'est extrêmement très fort.
Très.
Et là, donc, du coup, pour moi, c'est une ligne, par exemple, ça.
Ça,
dans,
c'est tout Tchekhov.
Dans le travail,
c'est
voilà.
Tout Tchekhov. Il y en a un qui pleure et l'autre sifflote.
Qui savait faire rire mieux que lui? Mieux que lui dire des bêtises avec le plus grand sérieux? Qui plus que lui détestait l'ignorance, la grossièreté, les jérémiades, les cancans, l'esprit petit bourgeois et les éternelles tasses de thé? Qui plus que lui avait soif de vie, de culture? Il en va de même dans ses pièces. Sur le fond sombre et désespéré des années 1880-1890, s'allument çà et là des rêves lumineux, des prédictions encourageantes d'une vie future qui vaut bien qu'on souffre pour elle. Dut-on attendre 200, 300 ou même 1000 ans? Je comprends encore moins qu'on puisse trouver Tchekhov vieilli et démodé aujourd'hui, et pas davantage qu'on puisse penser qu'il n'aurait pas compris la révolution ni la vie enfantée par elle. Le marasme asphyxiant de l'époque ne créait aucun terrain propice à l'envolée révolutionnaire, mais quelque part sous terre, clandestinement, on rassemblait ses forces pour les affrontements qui menaçaient. Le travail des progressistes consistait uniquement à préparer l'opinion, à insuffler des idées nouvelles, à dénoncer la totale illégitimité de l'ordre établi. Et Tchekhov fut l'un d'eux. Konstantin Stanislavski.
Vous disiez de Oncle Vania que c'était un chef-d'œuvre.
Oui.
C'est plus un chef-d'œuvre pour vous, Julie Brochen, que les autres pièces de Tchekhov.
Ben, je pense pas.
Vous le supposez comme ça, étant donné que c'est celle-ci.
Disons que plutôt Vania, comme je l'ai travaillé avec quatre autres pièces trois autres qu'on a travaillé avec Kaliagin. J'adore La Cerisée, comme tout le monde. Comment on peut pas aimer cette pièce? Elle est somptueuse, cette pièce. Elle est.
Peut-on ne pas aimer les trois sœurs, les trois la mouette, les trois sœurs?
Non,
de
mais
la
justement,
même
on avait travaillé les trois sœurs, La Cerisée, la mouette et Vania. Et j'avoue, moi, dans le sens inverse, que c'est Vania qui m'intéressait le moins. C'est-à-dire, je l'avais travaillé au même titre que les autres, et les autres me passionnaient. J'ai monté les trois sœurs avec des amateurs à Chartres, et puis j'ai travaillé sur Platonov, Ivanov, avec des élèves du conservatoire de Bordeaux. J'ai moi-même travaillé Nina dans la mouette sur toute ma deuxième année avec Stuart Saïd au conservatoire, et j'étais évidemment très 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 attachée à ces pièces-là. Et Vania, c'est pas que ça me tombait des mains, mais je n'avais pas conscience de cette sublime pièce. pièce avant de la travailler ici avec les acteurs qui m'ont accompagné sur ce travail-là. J'ai, grâce à Tolstoï, été dans une révélation de ce qu'était Vania, qui me semble être un coup de poing d'une force. C'est très court, c'est très ramassé, il y a peu d'acteurs, il y a peu de rôles, et c'est d'un tracé, d'une fulgurance et d'une violence, d'une force, cette pièce, que je ne soupçonnais pas avant.
Un coup de marteau, disait
Coup de Gorky. Marteau, hein. Oui, voilà, il a raison, Gorky.
Ce qu'il écrit à Tchekhov après avoir vu la représentation de la pièce.
J'ai vu ces jours-ci oncle Vania. J'ai vu et j'ai pleuré comme une bonne femme. Même si je suis loin d'être un homme nerveux, je suis rentrée chez moi abasourdie, chavirée par votre pièce. Je vous ai écrit une longue lettre et je l'ai déchirée. Pas moyen d'écrire bien, clairement, ce que cette pièce vous fait naître dans l'âme. Mais je sentais cela en regardant ces personnages. C'était comme si on me sciait en deux avec une vieille scie. Les dents vous coupent directement le cœur. Et le cœur se serre sous leurs allées et venues. Il crie, il se débat. Pour moi, c'est une chose terrifiante. Votre oncle Vania est une forme absolument nouvelle dans l'art dramatique. Un marteau avec lequel vous cognez sur les crânes vides du public. Dans le dernier acte de Vania, quand le docteur, après une longue pause, parle de la chaleur qu'il doit faire en Afrique, je me suis mis à trembler d'enthousiasme devant votre talent et à trembler de peur pour les gens, pour notre vie, misérable, incolore. Quel drôle de coup! Et comme il est précis, vous avez frappé là. Votre déclaration selon laquelle vous n'avez plus envie d'écrire pour le théâtre m'oblige à vous dire quelques mots sur la façon dont le public qui vous comprend considère vos pièces. On dit par exemple qu'Oncle Vania et la Mouette sont une nouvelle forme d'art dramatique dans laquelle le réalisme s'élève à la hauteur d'un symbole porté par l'émotion et profondément pensé. Je trouve qu'ils ont raison de dire cela. En écoutant votre pièce, je pensais à la vie qu'on sacrifie à une idole, à l'irruption de la beauté dans la vie miséreuse des gens et à beaucoup de choses graves, fondamentales. Les autres drames ne détournent pas l'homme de la réalité pour l'amener aux généralisations philosophiques, les vôtres, si. Maxime Gorky.
Laissons la philosophie.
Monsieur Krovitch, vous êtes un homme intelligent et cultivé. Vous devriez comprendre, me semble-t-il, que ce qui détruit le monde, ce ne sont pas les brigands, les incendies, mais la haine, l'inimitié, tous ces conflits mesquins. Votre rôle à vous, ce serait de réconcilier tout le monde.
Réconciliez-moi d'abord avec moi-même, ma bien-aimée.
Arrêtez, sortez.
La pluie va passer tout de suite, tout dans la nature sera rafraîchi, soupirera de soulagement. Moi seul, je ne serai pas rafraîchi par l'orage. Jour et nuit, elle vient m'étouffer comme un démon du foyer. Cette idée que ma vie est perdue sans retour. Le passé n'existe plus, il était bêtement gaspillé en vêtis. Et le présent est monstrueux d'absurdité. Voilà ma vie. Et mon amour, à quoi ça sert? Que faire avec? Ce que j'éprouve se perd pour rien, comme un rayon de soleil qui tombe dans un trou. Et moi aussi, j'ai une peur.
Vous avez envisagé, Julie Brochaine, de confier le rôle de Vania, dans un premier temps, à Denise Janssen.
Oui, pourquoi? C'est vrai. Parce
pourquoi une femme?
C'était pas parce que c'était une femme, c'est parce que c'était Denise Janssen. C'est-à-dire que on s'est rencontrés grâce à Jean-Loup Rivière. On s'était d'abord rencontrés quand je suis arrivée à Paris pour un devoir au lycée. Mon père était à la Comédie Française et puis j'avais laissé des petits mots dans les boîtes aux lettres et Denise avait été une des rares à me répondre et à consacrer une après-midi entière à répondre à mes questions comme on fait là, une discussion sur le paradoxe du comédien de Diderot, je me souviens. Et puis je l'ai vue dans Félicité, et puis je l'ai vue dans tout ce qu'elle a fait et je lui voue une admiration réelle, ancrée. C'est quelqu'un qui compte pour moi et qui a certainement joué son rôle dans mon appétit de théâtre et dans le fait que je ne puisse plus rien faire d'autre que du théâtre aujourd'hui. Je suis allée pour la revue de la Comédie-Française discuter avec elle et on a fait un entretien et on a parlé d'énormément de choses et notamment de nos parcours croisés et ce qui était drôle, c'est qu'elle disait des choses du conservatoire, de son conservatoire que j'avais éprouvé moi au plus profond de moi et que j'avais pas pu le dire parce qu'on a, vous savez, des rôles de contre-emploi ou au conservatoire quand on a une physionomie particulière ou je sais pas comment dire ça, on n'est pas jeune premier, on nous donne des rôles sublimes à jouer, mais elle est rentrée au Français avec des rôles de composition surlignés. Moi, j'avais eu la même chose au conservatoire. En fait, c'était une sorte de sensibilité commune sur des détails, pas forcément sur des choses importantes. Et moi, je l'écoutais, je buvais ses paroles. Et puis, elle a terminé cet entretien en disant qu'elle avait deux regrets. Et c'est une personne, je veux pas qu'elle en ait aucun. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, il faut qu'il y en ait aucun. Le premier, c'était de ne pas avoir fait de mise en scène. Et moi, j'espère qu'elle va en faire une encore aujourd'hui. Et elle est la bienvenue ici pour en faire tout ce qu'elle veut. Et le deuxième souhait ou regret, c'était de ne pas avoir joué Tchekhov. Et elle me dit comme une boutade, malheureusement, il n'y a pas tant de Vania, il y a Oncle Vania. Il y a Oncle Vania, il n'y a pas tant de Vania. Je ne sais plus comment ça s'était dit. Et je me suis dit, tiens, et c'était bien avant cette histoire de Tolstoï était déjà là, mais il n'y avait pas l'aquarium, il n'y avait pas l'envie de monter Vania. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à Vania, je me suis dit, et si la maison que nous vendions, que nous allions vendre, c'était le théâtre, et si dans le théâtre, il y avait une troupe qui existait et qui vivait comme on vit dans la maison et qu'on s'investit et qu'on s'engage au théâtre comme on s'engage dans la vie, si la troupe était vendue avec les meubles et si la mémoire vivante qu'est Denis Jans aujourd'hui dit « Et moi, alors, je vais où ?» Si Serebryakov, en tant que metteur en scène, s'adresse comme une espèce d'hommage à Louis Malle de Serebryakov mettant en scène, s'adressant à une troupe de théâtre dans des gradins en disant, bon voilà, moi j'ai pensé à une chose, on a 2% de bénéfices, je crois que ça va être de pire en pire et il a raison, le calcul est bon, je crois qu'il vaut mieux faire un gymnase club aujourd'hui, on va raser, on va faire un parking, ça va être beaucoup plus, on va doubler le bénéfice, on va pouvoir même s'acheter une petite datcha en Finlande, donc je crois que le calcul est bon. Ce qui est terrible, mais sauf que c'est là où je voyais Denise dire formidable, riche idée, et que la dimension humaine là-dedans me parlait très fort parce qu'elle représente le théâtre aujourd'hui à mes yeux. C'est
une dimension humaine opposée à un principe de réalité.
Oui.
Aussi critiquable
le théâtre, théâtre c'est un art vivant, donc il n'est partagé que par les gens qui le vivent au moment où ils le vivent. Et pour moi, c'est du présent, et ce qui nourrit mon présent, c'est des gens comme Denis Jans, qui font que la nécessité d'être au théâtre aujourd'hui, c'est eux. Voilà.
Le soleil était couché sous un brocart de pourpre et d'or, et de longs nuages rouges et lilas, allongés dans le ciel, veillaient sur son repos.
1971, Tchekhov, dans le ravin, lu par Denis Jans.
Quelque part au loin, on le savait tout, un butor poussait des cris mélancoliques et sourds, comme une vache enfermée dans son étable. Chaque printemps, on entendait le cri de cet oiseau mystérieux, mais personne ne savait à quoi il ressemblait et où il avait son nid. En haut, à l'hôpital, dans les buissons, au bord même de l'étang, au-delà du hameau et alentour, dans les champs, les rossignols s'égosillaient. Un coucou comptait l'âge de quelqu'un et chaque fois s'embrouillait dans ses comptes et recommençait. Dans les temps, les grenouilles s'interpellaient furieusement à perdre haleine et l'on pouvait même distinguer les mots « Ah, toi ! Ah, toi ! » Quel vacarme ! On aurait dit que tous ces êtres criaient et chantaient à dessein pour empêcher toutes les créatures de dormir par ce soir de printemps, pour les obliger toutes, même les grenouilles en colère, à apprécier et savourer chaque instant. « Bouh, bouh !» criait le butor. « Bouh !»
C'était c'était aussi de mettre Vania à la hauteur de mes rêves, c'est-à-dire que je me mets souvent en situation de péril et de défi par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je me mets souvent dans des impossibilités quand même. Donc je savais au fond de moi que ça n'allait pas de soi et que ça n'était pas une chose simple. C'est très lourd à porter Vania, en plus... je savais que Denise était prise et ça allait être difficile de l'engager sur une période comme ça très longue, etc. Je le savais, on en avait parlé. Et c'était une façon de rêver le rôle à l'endroit que je voulais. Et tout était une série de choses improbables qui ne coulent pas de source, ça n'a rien de logique. C'est une chose qui aussi se fait d'elle-même, une mise en scène. C'est-à-dire que c'est un projet qu'en effet, on réunit des forces, des énergies, on les fait se croiser, mais après les choses se révèlent à elles-mêmes et même moi, mon désir de Vania s'est révélé au travers d'eux. Ça a induit une lecture tout à fait différente.
Mesdames, messieurs, je vous ai réunis pour vous demander aide et conseil. Et connaissant votre indéfectible obligeance, j'espère les obtenir. Je suis un homme de science, un homme de livres, j'ai toujours été étranger à la vie pratique. Me passer des indications des spécialistes, je ne le peux pas, et je te demande à toi, Ivan Petrovitch, à vous, Ilya Ilitch, et à vous, maman. Le problème est que manet omnes una nox, enfin, je veux dire que nous sommes tous dans la main de Dieu. Là, je suis vieux, malade, et c'est pourquoi je trouve qu'il est temps d'ordonnancer mes relations patrimoniales pour autant qu'elles touchent ma famille. Ma vie est déjà finie, je ne pense pas à moi, mais j'ai une épouse qui est jeune, une fille, encore jeune fille. Continuer de vivre à la campagne m'est impossible. Nous ne sommes pas faits pour vivre à la campagne. Or, vivre en ville avec l'argent qui nous vient de ce domaine, c'est impossible. Vendre, admettons, la forêt, c'est une mesure exceptionnelle à laquelle on ne peut pas avoir recours. Chaque année, il faut trouver des mesures qui nous garantissent un revenu constant, plus ou moins régulier. De ces mesures, j'en ai trouvé une et j'ai l'honneur de la soumettre à votre approbation. Voilà, passons sur le détail. Je vous l'expose dans les grandes. Notre domaine ne rapporte en moyenne pas plus de 2%. Je propose de le vendre. Si nous convertissons la somme ainsi dégagée en titre au porteur, nous toucherons de 4 à 5%, et je crois qu'il y aura même un excédent de quelques milliers de roubles de quoi acheter une petite datcha en Finlande.
Attends, j'ai du mal à entendre. Répète ce que tu as dit.
À convertir l'argent en titre au porteur et avec l'excédent qui restera, acheter une datcha en Finlande.
Pas la Finlande, tu as dit autre chose avant.
Oui, je propose de vendre le domaine.
Oui, c'est bien ça. Tu vends le domaine. Bravo, riche idée. Et où veux-tu qu'on aille, la vieille mère et moi, et Sonia?
Ça, nous en débattons le moment venu.
Changement, alors pour le coup, de distribution, c'est-à-dire qu'à la création, c'était Jean-Paul Roussillon qui jouait le rôle du professeur. Oui. Il est maintenant remplacé par Bruce Meyers. Oui. Est-ce que ce changement de distribution génère un nouveau spectacle?
Oui, bien sûr.
Et génère une lecture ou une interprétation différente de votre part à vous, Julie Brochen?
Non, de ma part à moi, moins que de la part des relations au plateau. C'est-à-dire que forcément, Bruce est arrivé comme une personne tout à fait providentielle, mais très très différente de Jean-Paul, si ce n'est qu'il est ténor lui aussi. C'est la seule chose qui les relie. Moi, j'ai découvert Serebrennikov avec Jean-Paul Roussillon. Ça a été un moment très intense de travail et là aussi, j'ai une admiration tellement folle pour cet acteur que de le voir travailler avec nous, de voir son engagement, comment il a répété, c'était fort, fort d'enseignement pour nous, pour moi en particulier. Et puis il a ouvert complètement le champ de travail sur Serebrennikov et il me l'a fait découvrir. La relation très troublante avec Elena, ce vrai couple, puisqu'il n'y en a qu'un dans la pièce, de vrai couple, j'y ai cru à un point formidable grâce à lui. Et puis après, c'est vrai que c'est violent, mais C'est une chose très savoureuse aussi, c'est-à-dire que ça réébranle tout l'édifice, ça fait rentrer de l'air, ça fait rentrer du sang neuf, ça repositionne tout le monde autour d'une nouvelle personne.
Ça demande de rééquilibrer presque les rapports de force sur le plateau. Je dis ça parce que, ne serait-ce que physiquement, ils sont totalement dissemblables.
Bien sûr.
Donc, l'occupation de l'espace, la façon dont Roussillon investit l'espace et la façon dont Bruce Meyer, qui n'a rien à voir, l'investit, oui. Suppose aussi un autre rapport à l'autre, et notamment donc à Elena, qui est interprétée par Jeanne Balibar.
C'est sûr. Donc, c'est un autre couple, c'est une autre histoire, et c'est évident. Mais plutôt que de les rééquilibrer, il faut les redéséquilibrer plutôt.
Oui, il y a cette phrase d'Elena que j'adore, c'est « il faut faire confiance à tout le monde, sinon on ne peut pas vivre ». C'est une des plus belles phrases qu'on puisse lire. Et je trouve que ça s'applique d'abord à une vision de la vie de Tchekhov et cette confiance envers les hommes et les personnes.
Bernard Gabé.
Et du coup, comme disait Julie d'ailleurs, ce que je trouve incroyable, excuse-moi, c'est vrai que ça me venait, c'est que ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné, cette sagesse qu'elle a, cette intuition que tout ce qu'on dit dans une pièce est vrai, à prendre pour vrai quand c'est affirmé. Oui. Je trouve ça d'une profondeur incroyable parce que on a très souvent tendance à juger ou à vite se positionner par rapport à ce qui est dit dans un texte. Et là...
Et à contourner à ce moment-là.
Et à le contourner ou à chercher justement peut-être d'autres voies un peu trop dictées par ce qu'on ressent. Et je trouve que de penser ça, ça donne une ouverture et une confiance du coup incroyable.
Vous allez un peu à contre-courant dans ce que vous dites, Julie Brochen, de certains a priori ou de certaines idées qu'on pourra avoir donc le Vania. Vous dites, d'une part, ce couple, le professeur et Elena, c'est le seul et le vrai couple de la pièce, là où tout le monde pense qu'il n'y a pas de couple parce qu'il n'y a plus d'amour. Vous dites aussi,
il y a plus d'amour, Wojnicek. On n'en sait rien. Il y a plus de désir peut-être, mais plus d'amour, on n'en sait rien. Elle repart avec lui à la fin.
Ça signe pas l'amour.
Ben, elle repart avec lui. Moi, ce que je sais, c'est que cette femme prend le train avec cet homme-là, elle le suit, et il ne se passera rien avec Astrov. Je pense que c'est un choix, c'est pas une chose subie. De toute façon, les personnages de Tchekhov, ils détestent qu'on les plaigne. Hein. Ils ont un courage phénoménal, ils ont une rage qui font qu'ils ont beaucoup d'orgueil, de fierté, ils se rebellent. Donc, à mon avis, Elena, si elle repart avec Serebryakov, c'est qu'il se passe vraiment une chose qui est difficile à saisir pour des gens qui les connaissent pas. On les juge beaucoup, ils arrivent, on les juge, on les regarde comme deux étrangers, deux intrus. Mais moi, j'y crois profondément à leur histoire d'amour. Je trouve que ça n'est pas une mascarade de couple, c'est le seul couple de la pièce, effectivement. Et je crois qu'elle l'a épousé par amour, elle le dit. Alors après, comment on vit cet amour-là, avec l'écart de l'âge, avec le fait qu'elle ait renoncé au piano? Je crois que c'est lié à la personnalité même d'Elena et à son histoire propre. Ce qui se passe autour d'elle et cette espèce de trou noir qu'elle est, qui révèle les autres dans leurs désirs les plus fous.
Trou noir, c'est une expression effectivement qui pourrait même rappeler ce qu'on peut dire de Platonov, qui est une sorte de néant aussi.
Un siphon, oui. C'est
une présence-absence, en tout cas dans la version qu'on donne Jeanne Balibar sur le plateau. C'est une sorte de présence-absence, cette Elena, qui par contre va susciter des réactions en chaîne autour d'elle, mais elle est impalpable, insaisissable, quasi évanescente.
Oui, ou alors elle s'est elle-même anesthésiée et elle cherche à ressentir à travers les autres des choses, c'est-à-dire qu'elle vampirise les personnalités des autres, elle prend tout, elle s'accapare tout, oui. Elle voit tout, elle entend tout. Et elle ne fait rien, mais parce que ça lui demande beaucoup d'énergie de prendre tout. C'est comme, c'est un prisme, c'est une sorte de... C'est très, très, très délicat. C'est un rôle extrêmement difficile. Très très difficile. Et le couple avec Serebryakov est d'autant plus nécessaire parce que c'est pas Elena, c'est Elena et Serebryakov, c'est le professeur et la professoresse, comme on les appelle dans la traduction de Markovitch.
Il y a pourtant des face-à-face, des duos et des confrontations Elena Astrov ou Elena Wojnicek.
Absolument.
Où elle est dissociée du professeur à ce moment-là, Julie Brochen.
Oui, mais on ne sait pas ce qu'elle cherche à travers eux. En tout cas, c'est plutôt eux qui viennent chercher quelque chose avec elle, qui viennent essayer de se réconcilier avec eux-mêmes, l'un et l'autre. Vania le dit très bien. Wojnicki dit à un moment, réconciliez-moi d'abord avec moi-même. Donc il y a quelque chose qu'il cherche ils se servent d'elle d'une certaine manière pour quelque chose qui se réveille. Ce qui est très beau dans Tchekhov, c'est qu'il y a des sentiments qui se réveillent. C'est comme du vitriol qui viendrait réveiller des choses qui ont été ensevelies. Et tout est là au départ, il n'y a pas de suspense à ce niveau-là. Tout est complètement là, mais on réveille les morts, on réveille les vivants, on est dans une chose qu'on ne peut plus refouler et qu'il faut absolument affronter au moment où on les dit. Et c'est extrêmement déstabilisant à jouer pour ça. C'est déroutant parce qu'il faut être disponible et à la fois être très très concentré. C'est de l'intérieur, c'est passionnant à traverser pour les acteurs en tout cas.
Dans l'œuvre de Tchekhov passe un cortège d'esclaves. Esclaves de leurs amours, de leurs bêtises, de leur paresse ou avidité de bien-être. Esclaves d'une peur obscure de la vie, vaguement troublée, remplissant leur existence de discours décousus sur l'avenir parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de place pour eux dans le présent. Parfois, au cœur de cette masse grise, retentit un coup de feu. C'est Ivanov ou Treplev qui a compris ce qu'il avait à faire. Mourir. Certains forment de jolis rêves sur la beauté de la vie dans 200 ans. Mais personne ne se pose cette simple question, qui donc la rendra belle, si nous nous bornons à rêver? À côté de cette foule grise et ennuyée d'êtres impuissants est passé un homme grand, intelligent, attentif. Il a jeté un regard sur ces mornes habitants de sa patrie et déchiré de désespoir, sur un ton de doux mais profond reproche. Il a dit avec un triste sourire, d'une belle voix sincère, « Que vous vivez mal, messieurs. » Maxime Gorki.
Et qui ne demandera manifestement pas plus de 10 à 15 ans pour devenir total. Alors vous me direz qu'il y a des facteurs culturels et que la vie ancienne devait naturellement faire place à une vie nouvelle. Oui, j'entends bien. Si à la place de ces forêts exterminées, on avait tracé des routes, s'il y avait là des usines, des fabriques, des écoles, car les gens seraient en meilleure santé, ils seraient plus riches, plus intelligents. Mais là, rien de semblable. Dans le district, ce sont les mêmes marais, les moustiques, le même manque de route, la misère, le typhus, la diphtérie, les incendies. Nous avons affaire à une dégénérescence résultant d'une lutte inhumaine pour la vie. Une dégénérescence provenant de la routine, de l'ignorance, de la plus totale absence de conscience de soi. Quand l'homme, glacé, affamé, malade, pour sauver ce qui lui reste de vie, pour préserver ses enfants, instinctivement, inconsciemment, se jette sur tout ce qui peut le rassasier, le réchauffer, et qu'il détruit tout, sans penser au lendemain. Tout déjà presque est détruit, mais en retour, rien n'est encore créé. Donc je vois à votre visage que ça ne vous intéresse pas.
Je m'y entends si peu à ces choses-là.
Non, ce n'est pas une question de s'y entendre. Simplement, ça ne vous intéresse pas.
Tout a été dit et fait, et aucune littérature ne peut dépasser le cynisme de la réalité. Anton Tchekhov.
Donc l'arrivée de ce couple dans cette maison, par rapport à Tchekhov lui-même, auteur dans son ciel, écrivant en 1900, ça signifierait quoi pour vous, Julie Brochen?
Peut-être cette idée tout à fait
dites, redites et re-redites qu'il n'y a pas de progrès en art et que et qu'on est toujours au même endroit, en tout cas familialement parlant, l'endroit de création, l'endroit du rêve, l'endroit de sa gestation, ce qu'on fait de sa vie, les choix à faire, les non-choix, la perdition, l'idée de perdre quelque chose, le temps qui passe, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace, quelle est notre utilité, quelle est notre rôle à jouer. Qu'est-ce que c'est que le rôle qu'on a? Quel est le rôle qu'on se décide à avoir, qu'on choisit, celui qu'on a, qu'on nous impose? Tout s'est construit sur une histoire d'argent. L'argent a autant d'importance que la maison, puisque c'est l'argent qui a permis cette maison immense d'être achetée, qui se sont ruinés pour acheter cette maison, que les parents de Wojnicki ont acheté cette maison en dot pour la sœur, qui est la mère de Sonia et qui est morte. Et Vera Petrovna était une femme dont tout le monde dit qu'elle était belle, intelligente, qu'elle s'est vouée, elle aussi, comme Elena, à cet homme qui est Serebryakov, qui se fait décidément incroyablement aimer par des femmes magnifiques, généreuses, pures. Donc, c'est aussi ça, aussi, le couple et l'amour que génère, que provoque cet homme-là. Et comment les choses se déplacent, puisque après cette dot, cette femme va vivre avec cet homme, elle a cette petite fille, elle tombe malade, elle meurt. À 10 ans, Sonia est envoyée à la campagne et le père se remarie tout de suite avec une jeune épouse, Elena. Et Vania va élever et va rembourser intégralement la dette en élevant Sonia et avec la mère de Vera Petrovna, donc avec sa propre mère, mais qui l'a complètement... lui s'est sacrifié, il a décidé de céder toute sa part d'héritage pour que sa sœur ait cette dot. Donc il a renoncé à son héritage, il a renoncé à sa vie, il a élevé la fille d'un autre, il a remboursé une dette qui n'est pas la sienne, et au bout du compte, on le met dehors. Donc il a une sorte de déplacement constant et de...
Est-ce qu'il est passé à côté de sa vie ?
Non, Tania. Puisqu'il l'a vu au moment où il le dit. Non, il n'est pas passé à côté de sa vie, mais il a vécu par procuration la vie d'un autre, ce qu'il reproche à Serebryakov, d'avoir tenu la place d'un autre. Et il a une sorte de lucidité, de coup de cœur, de se dire qu'au lieu d'être un autre, il veut être lui-même. Il veut enfin pouvoir se réconcilier avec lui-même, être lui, et pas jouer le rôle d'un autre. D'être le Vania en russe, c'est pas d'ailleurs l'oncle Vania, c'est l'ami Vania. Vania, c'est toutes les familles ont un Vania, un laissé pour compte, quelqu'un dont on se préoccupe pas et qui a autant d'importance qu'un rôle principal dans une famille. Il y a toujours des moi je sais que j'ai un grand frère par exemple et que je suis la petite sœur et que j'ai été gavée d'amour et que j'ai été toujours considérée par lui, mais d'ailleurs je crois à juste titre la plus gâtée, la plus aimée. Il y a toujours des choses comme ça. Vera Petrovna était la plus aimée et Vania a été laissée de côté. La mère lui dit « Obéis à Alexandre, écoute Alexandre, il n'a pas de réalité propre et ce qu'il demande, c'est qu'on l'appelle par son nom, qu'il puisse dire « je », qu'il puisse décider lui-même, mais il ne dépend que de lui de le faire. Hein. C'est pas une victime, il n'y a pas de victime dans cette pièce. »
Oui, vous dites de lui qu'il a une pulsion de vie.
Absolument, je crois qu'il n'est pas du tout comme Fédia
dans le cadavre.
Malgré
sa tentative de suicide à la fin, ratée, effectivement.
Oui, c'est raté, même son crime vers Serebryakov, il tue avec en disant pan comme un enfant, il tue, c'est encore plus dur d'ailleurs de tuer quelqu'un en disant pan. C'est encore plus violent d'essayer de tuer Serebryakov en disant pan. Je trouve ça extraordinaire, moi c'est une fulgurance de l'esprit et c'est une audace d'écrivain extraordinaire. C'est encore plus violent à jouer, c'est terrible à jouer ça. Cette impuissance là, mais c'est vrai que c'est une pulsion de vie, Vania. Je ne l'imagine pas. Je m'inquiète beaucoup parce qu'il n'y a pas de cinquième acte. Je m'inquiète beaucoup sur le sort de Sonia. Mais Vania, je pense pas qu'il ait la mort. Au contraire, il a la conscience d'avoir beaucoup de temps à vivre et il ne sait pas comment remplir ses années. Il le dit très bien.
Et pourquoi est-ce que le sort de Sonia vous inquiète à ce point-là?
Parce qu'elle
qui est donc celle qui n'est pas aimée d'Astrov, celle qui n'est pas jolie.
Elle n'a rien demandé, elle est la propriétaire de cette maison et elle ne s'est pas sacrifiée, elle n'a pas décidé de sacrifier son héritage et on le lui sacrifie sans lui demander son avis. Elle est majeure, c'est certainement l'année de sa majorité où tout ça se passe et elle est incomprise, elle n'est pas regardée, elle n'est pas écoutée et donc je pense que c'est une... Il plane sur sa tête un vrai danger. Quand on parle de pulsion de vie, pulsion de mort, c'est une petite Sarah Kane en puissance, Sonia. C'est quelqu'un qui va tout d'un coup exprimer, je l'espère, à travers quelque chose, son désespoir. Mais on peut pas continuer à vivre un désespoir pareil dans un manque d'échange. Et le fait qu'elle est dans la pièce même épuisée tellement elle travaille seule, la maison part est abandonnée, tout est en ruine et elle s'active, c'est une ouvrière, c'est une petite soldate qui fait une armée entière elle toute seule et on peut pas demander à une petite Sonia de sauver le monde, c'est pas possible.
Ce que dit Sonia est prodigieux à la fin, c'est terrible et c'est magnifique.
Rappelez-nous ce qu'elle dit, Nathalie Nerval.
Nous nous reposerons. Mon petit oncle, nous nous reposerons. Ça, les dernières phrases de Tchekhov sont...
C'est un carnage, la fin de Vania. On se dit, ils vont continuer à être là, et qu'est-ce qui va se passer ?
Lorsqu'on n'a pas de vie véritable, on la remplace par des mirages. C'est tout de même mieux que rien. Anton Tchekhov.
Tchekhov écrit des comédies, dit-il. Hein. C'est une comédie.
C'est une comédie pour vous, Oncle Vania,
oui,
chez Brochet.
Oui, c'est ce qu'il écrit. En tout cas, il dit que pour lui, c'est une comédie, et il dit ça en questionnant le mot comédie. Mais c'est très optimiste au fond. Moi, j'ai envie de reconstruire derrière le merle cassé avec notre cœur cassé. J'ai envie de prendre tous ces fragments, tous ces éclats et d'essayer de construire à partir de là. C'est-à-dire, c'est une façon de considérer un peu le nouveau siècle à venir, le sien ou le nôtre, et de partir des fracas et de la cassure, de la brisure, de l'échec. Je pense pas d'ailleurs en disant réussi, raté. Je ne sais pas ce qui dans Tchekhov est réussi, ou ce qu'il propose d'être réussi dans le parcours, ce qu'il faut réussir, ce qu'il faudrait réussir, et ce qui est raté. Parce que un suicide raté est peut-être plus réussi qu'un réussi. Dans sa dynamique, dans son, c'est une en question d'énergie. Qu'est-ce qu'on apprend le plus? Est-ce qu'on apprend le plus d'un homme qui se tire une balle dans la tête et dont on ne peut plus écouter aucun écho? Et c'est le silence derrière. Est-ce qu'on apprend plus du silence derrière, ou est-ce qu'on apprend plus d'un suicide raté, où on peut échanger ce que c'est que rater une balle qui passe à côté de la tête? Moi, a priori, j'ai pas de pulsion de mort non plus, et je suis pas suicidaire et désespérée à cet endroit-là. J'ai l'impression qu'on peut encore aujourd'hui être optimiste. Chut, s'il vous plaît.
Et dans la cerise, la vie a passé, c'est comme si je n'avais pas vécu.
И сердце с трезвой головой не на ножах. И не захватывает дух на скоростях. Не холодеет кровь на виражах.
Julie Brochen, on va revenir à cette scénographie donc de Francis Biras qui est totalement liée à la scénographie du cadavre vivant. Elle est coulée dans l'éphémère. Le décor, ce sont des feuilles de tilleul, donc très volatiles, qui peuvent s'envoler à tout moment. Il y a une balançoire, il y a des ouvertures à cour et à jardin, des comédiens qui traversent l'espace. Et finalement, on a le sentiment qu'ils ne font que ça, le traverser, sans vraiment s'y poser, s'y figer ou s'y arrêter. Donc une mise en scène de cette pièce qui se coule dans l'éphémère du théâtre, forcément. Mm-hmm.
Qui prend en tout cas l'outil théâtral comme un objet de recherche vivante et donc éphémère par définition. Les saisons sont très très importantes dans la pièce, donc le Vania comme dans toutes les pièces de Tchekhov. Le temps a... La pièce commence, disons, on a vu que la dernière facture délaissée par Vania était, je crois, du 2 février. Donc, on imagine que fin janvier, ils sont arrivés. Et la discussion finale a lieu à l'automne, le rose d'automne. Le troisième et le quatrième acte s'enchaînent. Donc, on passe une année ensemble. Donc les saisons, le rythme des saisons, l'éphémère des saisons même. C'est-à-dire, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a deux choses paradoxales qui s'en mêlent. C'est-à-dire, on a l'éphémère des saisons, les feuilles qui tombent, et on a l'éphémère de la vie dans l'instant, du présent, dans la durée. Et moi, j'aime beaucoup confronter les deux, parce que c'est la durée qui permet de la fragilité de l'éphémère. C'est comme Marguerite Duras quand elle écrit La maladie de la mort, c'est l'incroyable force de la fragilité et l'incroyable fragilité de la force. C'est des choses qui c'est pas seulement des complémentarités, c'est vraiment dialectique, c'est-à-dire qu'on peut penser les fragilités et éphémères quand on est dans une durée qui permet de l'inscrire et de la réfléchir. Et c'est vrai que le mouvement, le passage, les feuilles de tilleul, c'est parce qu'on avait besoin de deux... C'est Francis Biras, vraiment, ça, qui m'a amené ce tilleul, mais comme j'ai passé 15 ans de ma vie en Provence et que devant la maison de mes parents, il y avait un immense tilleul et qu'on récoltait le tilleul, pour moi, la campagne... Autant le cadavre est très urbain, très sauvage, très ça se passe vraiment dans une ville, je ne sais pas laquelle, mais dans une ville. Autant le Vania est dans un endroit reculé, cette propriété c'est pas 26 verstes, mais j'ai fait 50 verstes à pied, dit Astrophe, ou à cheval. Donc j'avais besoin de cette campagne, de cet extérieur, de cet ailleurs qu'on a d'ailleurs à la cartoucherie.
Oui, comme l'aquarium lui-même se trouve dans une sorte de camp retranché finalement.
Et le tilleul amenait ça vraiment. Et c'est vrai que récolter le tilleul, c'est long, parce qu'il faut vraiment le faire à la main. Et pour vendre au marché, ça, c'est un travail de folie pour avoir très peu d'argent au marché. C'est-à-dire, c'est pas rentable. C'est comme le théâtre. On travaille comme des fous pour finalement ce qui est visible, ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut louer. C'est une tellement petite proportion de l'effort accompli, de la dynamique, de l'énergie, du don de chacun sur la construction d'édifices qui sont à partager dans un univers intime, privé, mental des fois. Mais on développe les rêves et c'est un espace inouï le théâtre pour ça, parce que c'est non seulement un endroit où circule la pensée, où elle est vivante et où on peut l'échanger en toute liberté, mais en plus c'est un endroit où on déplace complètement les limites, on les inscrit autrement. L'être humain peut se travailler dans un espace théâtral, se réfléchir comme dans les rêves ou dans un très beau texte de philo ou comme dans une contemplation d'un paysage.
Mais alors cet espace dans cet oncle Vania, il est menacé.
Oui.
Cet espace théâtral, il est menacé. Les gradins sont recouverts. Tout peut être, pour reprendre le mot de Kaliagin, soldé à tout moment, vendu.
Absolument.
Pour cause de non-rentabilité. Oui. Vous mettez aussi ça en perspective, Julie Bouchaine, dans votre mise en scène de cette pièce.
Ça n'est pas rentable et c'est beau que ça ne le soit pas. Je n'ai rien contre la rentabilité, mais je pense plutôt comme Bataille qu'il faut la réfléchir et la penser autrement, la rentabilité. Je trouve ça très bien de rentabiliser des choses, mais certaines choses ne peuvent pas l'être, par essence. Et le tilleul, c'est extraordinaire de se faire une tisane de bon tilleul frais. C'est très beau, ça prend bien la lumière, ça sèche, il faut le vaporiser. Ça induit beaucoup de choses très belles dans le théâtre, parce qu'on est dans un rythme... un peu surréaliste d'arroser notre tilleul alors qu'il pleut dehors, de chauffer le théâtre alors qu'il est inchauffable, d'inscrire des êtres humains dans un espace très précaire, tout en sachant que la précarité ne fragilisera en rien l'intention et les désirs de chacun. Et cet esprit combatif que Stanislavski déjà avait écrit sur, je crois, la création de la mouette. Il avait senti que sa troupe était née, que c'était une troupe combative. Je crois que le combat à mener par rapport à tout ça, il est réellement indispensable. Il est très important pour qui veut être aujourd'hui optimiste par rapport à la société dans laquelle on vit. Si cette société vraiment nous importe, et si on veut qu'elle dure et qu'elle s'épanouisse, il faut absolument qu'on travaille à ce qu'elle s'épanouisse. Et on sait comment. Il faut absolument que l'être humain se sente de plus en plus heureux à l'intérieur et pas expulsé de droit ou de pas ou sans droit pour des raisons X, Y. Il faut pas expulser qui que ce soit. Il faut vivre ensemble et le théâtre est et une vraie, un vrai terrain d'expérience à ce niveau-là, de comment vivre ensemble.
J'ai l'impression d'avoir séjourné je ne sais où, dans un petit monde lointain et plein de vie. Maintenant, tout alentour me semble si morne et ennuyeux. Il s'agit, me semble-t-il, de la situation tragique de ces êtres, le tragique de cette vie quotidienne qui revient et les lie pour toujours. Et il s'agit encore du fait que le feu du talent éclaire la vie et l'âme des gens les plus ordinaires. Les rues sont remplies de ces gens simples, et chacun de nous porte en lui une parcelle de ces êtres. Piotr Kourkine.
Il s'agit de parler pour elle, la médecine. Ma chérie, comprends-le, c'est un talent. Et tu sais ce que c'est qu'un talent? L'audace. La liberté de penser. L'élan et l'envergure. Il plante un petit arbre et il pense déjà à ce que ça donnera d'ici 1000 ans. Il voit déjà devant lui le bonheur de l'humanité. Les gens comme ça sont rares. Il faut les aimer.
Il voit, il est parfois un peu grossier, mais Wellman, un homme de talent en Russie, ne peut pas être bien mis. Pense donc toi-même, quelle vie a-t-il ce docteur, la boue, infranchissable, sur les routes, le jet. Les tempêtes de neige, les distances énormes, les gens grossiers, sauvages. Partout le besoin, la maladie. Et dans une telle situation, pour celui qui travaille et qui lutte jour après jour, il est bien difficile à 40 ans de se garder bien mis et de ne pas boire. Je te souhaite de tout mon cœur, tu mérites d'être heureuse. Moi, je suis mort, un personnage épisodique, dans la musique et dans la maison de mon mari, dans tous les romans. Partout, en un mot, je n'ai été qu'un personnage épisodique. À dire vrai, Sonia, quand on y pense, je suis très, très malheureuse. Il n'y a pas de bonheur pour moi en ce monde.
Comment expliquez-vous cette très vive réaction de Tolstoï après la première de représentation de Vania dans cette mise en scène de Stanislavski en 1900? Alors que Gorki, lui, est totalement exalté par ce qu'il a vu, Tolstoï est extrêmement critique, au point donc qu'il va écrire une pièce en réaction ou en réponse à ce Vania de Tchekhov. Qu'il aimait les nouvelles de Tchekhov.
Oui.
Ce qui me touche. Il parle d'absence d'idées.
Oui, il dit que c'est pas du théâtre d'idées, que le théâtre ne doit être qu'un théâtre d'idées, mais c'est pas ce qu'il écrit non plus, hein, Tolstoï, quand on se met à travailler une des trois pièces, il a, pour ainsi dire, pas écrit pour le théâtre. Il s'y est mis, justement, après avoir eu ce choc de Vania. Ce qui me touche, c'est qu'à l'époque, il était âgé, considéré comme l'auteur de son siècle, adulé, vénéré. C'était Dieu sur Terre qui vient au théâtre et que tout le monde s'aplatit devant lui. J'imagine la scène, moi. Tolstoï arrivant au théâtre pour voir la première de Vania. Une espèce de... Même par rapport à Tchekhov, il a dû être réellement content que Tolstoï se déplace, parce que c'était vraiment incroyable, le succès international de cet auteur à ce moment-là, à ce moment de sa vie. Ce que je trouve très touchant, c'est que ce vieil homme, auréolé de gloire, rentre chez lui et se met à écrire du théâtre après. Essaye d'écrire du théâtre alors qu'il n'y connaît rien, que c'est un auteur génial, mais c'est un dramaturge épouvantable, et qu'il écrit des choses qui sont d'ailleurs immontables, injouables, et que dans cette impossibilité-là, nous, on a questionné. Qu'est-ce que c'était, selon lui, le théâtre d'idées? Mais je le sais pas aujourd'hui. J'en ai aucune idée. Alors, pour le coup, j'exprime seulement des idées, comme dirait Afremov, mais j'essaye de les exprimer, mais je ne peux pas avoir de réponse à ça, si ce n'est que la discussion entre eux, elle est passionnante, parce qu'ils posent tous les deux des questions, et que Tolstoï a une façon d'interroger le théâtre tout à fait intéressante par rapport à ce qu'on vient de dire sur la situation politique et sur quel est l'intérieur et l'extérieur. On parlait du tilleul tout à l'heure par rapport à Vania. C'est vrai qu'on fait rentrer avec le tilleul l'extérieur dans l'intérieur, mais ce que Tolstoï fait, c'est qu'il fait rentrer l'extérieur dans l'intérieur sur le plan même de la
confrontation de la thématique, c'est-à-dire qu'il fait un emboîtage presque cinématographique des scènes, et au lieu d'un lieu unique, Vania, qui est encore une fois un chef-d'œuvre absolu, musical, dramaturgique, scénographique, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire que de se mettre au service du texte de Tchekhov. Là, il faut tout inventer sur le cadavre vivant, et c'est très très compliqué, parce qu'il fait, il envahit une première scène qui se passe dans un appartement très exigu, sur une des idées très exiguës. Il envahit une sorte de dimension métaphysique de l'ailleurs, de l'exclusion, de l'intrusion de l'extérieur dans l'intérieur. Et tout ça est vraiment, au niveau de la pensée, extrêmement difficile à raconter au théâtre. Mais quand on est tout d'un coup happé par cette fascination que j'ai, moi, pour cette pièce... à ce moment-là, ça devient exaltant parce qu'on se dit on est face à une chose impossible et il faut se jeter à corps perdu dedans. Et on a l'impression de faire un saut vertigineux qui ne s'arrête plus, une sorte de chute libre. Et c'est très, 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 très émouvant. Très, très émouvant. C'est pas du théâtre d'idées du tout.
Mon merle,
nous nous reposerons.
Il a le cou cassé.
Moi, c'est vrai, au début, j'étais fou de Platonov, justement. C'est vrai que c'était la pièce phare pour moi. Et puis finalement, quand j'ai lu Vania, et petit à petit, celle-là, elle me touche, mais alors vraiment au plus près. Donc à voir après pour les autres, mais évidemment, après, évidemment, il y a tellement de...
Vous aussi, Nathalie Narvel, vous touche beaucoup?
Énormément.
Plus que les autres?
J'avais une préférence pour les trois sœurs, avant. Et depuis que je joue avec mes camarades dans Vania et que j'ai plongé dans Vania, je trouve la pièce étonnante. Je l'adore.
Vous disiez au début de cet entretien, Julie Brochen, que lorsqu'on commence à mettre en scène Tchekhov, on pourrait finalement ne mettre en scène que Tchekhov.
Non, ça je pense pas. Je pense que quand on le met en scène, quand on commence à le mettre en scène, on ne peut pas, je crois, se quitter...
Quitter Tchekhov comme ça.
Non, le quitter, le désir de le monter, de toute façon, m'accompagnera jusqu'à ce que j'ai...
Ce qui signifie que vous y reviendrez?
Ce qui signifie que j'y reviendrai certainement, je pourrais pas faire autrement. Je pense qu'on ne peut pas être pris, ne pas être pris du désir très 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 fort d'y retourner vite ou dans très longtemps, mais en tout cas d'y retourner, c'est évident. Et quand je disais ça tout à l'heure, c'est de monter toute l'œuvre de Tchekhov, y compris ses nouvelles, y compris...
ses pièces en un acte.
Tout, absolument tout, ça provoque une fin de lui. Une fin F-A-I-N-M. Pas l'autre fin, évidemment, mais oui, bien sûr, c'est une évidence pour moi, ça. De le jouer aussi, de jouer tout ce qu'on peut jouer de lui, ça, c'est une chose... c'est un appétit de lui. C'est... Maintenant, monter que lui, je pense que c'est pas ce qu'il souhaiterait non plus, lui, parce que, comme par hasard, il m'a fait rencontrer Tolstoï aussi, lui, c'est-à-dire qu'il demande ça. Il demande à faire naître des contradictions, des paradoxes, à être... ce qu'il demande aux acteurs, d'ailleurs, de se mettre dans des champs de contradictions, de tensions, de contradiction, je peux pas dire ça. Il demande vraiment. Je pense que de ne monter que lui serait une erreur par rapport à lui-même, par rapport à son écriture et par rapport à ce qu'il propose. Il faut aller jouer Claudel, il faut aller jouer Racine, il faut aller jouer Marivaux, il faut aller jouer tous les textes contemporains, et il faut revenir à Tchekhov dès qu'on peut, dès qu'on en a la chance. Oui, ça c'est sûr.
Est-ce que ça peut modeler un metteur en scène?
Le modeler?
Oui.
Dans quel sens?
C'est-à-dire, est-ce que le metteur en scène ou la metteur en scène que vous êtes, Julie Brochen, doit à Tchekhov sa façon de mettre en scène?
Alors ça,
non pas son goût, demander. Son désir, mais votre geste de metteur en scène.
Je sais pas, je lui dois beaucoup. Maintenant, mon geste de metteur en scène, je sais pas, il prend tout ce qu'il peut et il se dessine au fur et à mesure. Je sais que ce qui me touche beaucoup par rapport au public maintenant, c'est que depuis La Cagnotte, il y a une sorte de champ de résonance, d'écho entre les différentes pièces que certaines personnes me font partager. Mais moi, je suis pas consciente de ça. On me le dit et j'en suis très contente parce que c'est comme si on me racontait une histoire. Quand on me raconte les échos l'écho que chacun vit avec les différents spectacles. Moi, je les traverse avec les gens qui m'accompagnent, et donc je les vis à l'endroit où je suis, et l'endroit où je suis, par voie de conséquence, comprend l'endroit où j'étais, et pas encore celui où je serai. Mais c'est un cheminement, c'est un parcours, et ce que je dois à Tchekhov, c'est peut-être encore de l'appétit de jeu, parce que je... Travailler Tchekhov, c'est je me tenais à carreau jusqu'à présent.
Mais ça vous démange.
J'avais été rassasiée par Marthe grâce à Jean-Pierre Vincent dans l'échange. J'avais vraiment pu travailler tout mon sou là-dessus. Et c'est vrai que de revoir travailler Vania, c'est terrible ce que ça me manque là. Ça m'a fait naître mon désir, ça m'a fait naître au jeu et naître mon désir de comédienne, je crois. Ça m'a révélé à moi-même l'envie que j'avais d'être sur un plateau, alors que c'était pas une chose si claire avant lui.
Oncle Vania, Tchekhov, avec Julie Brochen, Bernard Gabé, Nathalie Nerval, avec la voix de Denise Jans, texte lu par Valérie Dréville, prise de son Emmanuel Perrault, mixage Jean-Louis Deloncle, surpris par la nuit, Joël Gaillot, Anne Fleury.